place publique.
Tout comme le canton de Neuchâtel, la République et le canton du Jura aura finalement un salaire minimum, mais la loi jurassienne, adoptée en première lecture aujourd'hui par le Parlement jurassien, prévoit davantage d'exceptions que dans le régime neuchâtelois. On en parle avec deux représentants des entreprises romandes avec nous. Économie toujours, l'industrie a souffert du Francfort avec une diminution notable du nombre d'emplois. C'est ce qui ressort d'une série d'études présentées hier par la Confédération. On entendra l'un des auteurs qui est professeur assistant de l'Université de Neuchâtel. Se faire tester, mettre un préservatif pour se protéger des infections sexuellement transmissibles, un geste de bon sens promu intensivement depuis des années et pourtant, ça semble avoir de la peine à s'imposer dans les pratiques car les cas déclarés d'infections sexuellement transmissibles ont une nouvelle fois augmenté l'an dernier.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. Après bien des atermoiements politico-juridiques, le Parlement jurassien a dit oui une première fois au salaire minimum. Aujourd'hui, une majorité de députés a accepté en première lecture le projet de loi du gouvernement. La République et le canton du Jura suit l'exemple neuchâtelois, mais la loi jurassienne prévoit un salaire plus bas et des exceptions plus nombreuses. On parle des points communs et des différences entre ces deux versions du salaire minimum en compagnie de deux représentants des entreprises, car ce sont bien elles, les entreprises qui devront appliquer ce salaire minimum, même si la plupart d'entre elles pratiquent déjà des salaires plus élevés. On en parle avec vous, Vincent Gigandet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez la Fédération des entreprises romandes de l'Arc Jurassien. Et avec nous également, votre homologue du côté neuchâtelois, Lionel Capelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur adjoint de la Fédération des entreprises romandes Neuchâtel. Vincent Gigandet, quand on voit le projet qui est sorti des débats aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'agit plus d'une mesure symbolique qu'autre chose, un salaire minimum à 19,25 francs au lieu de 20, qui en plus n'est pas applicable à toutes les branches économiques, avec pas mal d'exceptions. Fallait-il vraiment faire autant de bruit pour ça ?
Bien écoutez, effectivement, ce n'est pas un montant très élevé qui a été retenu ici pour établir le salaire minimum cantonal, hein. Ça, c'est bien évident. La problématique est plutôt sur une question de principe, à savoir que Le salaire est le fait des partenaires sociaux et des parties au contrat. Il n'est pas le fait de l'État et c'est surtout sur ce point-là que ça nous titille un peu et non pas tant sur le montant en tant que tel du salaire.
Donc vous contestez pas le montant, vous contestez le fait que ce soit le privé finalement qui soit responsable d'assurer un minimum décent.
Oui, et puis avec les exceptions, mais qui sont liées en fait au texte même de l'initiative, hein, qui, je le rappelle, demandait qu'il soit établi un salaire minimum obligatoire dans le canton du Jura, qui soit d'une part différencié selon les branches, et d'autre part qui exclut les secteurs d'activité connaissant une convention collective de travail avec des salaires minimaux impératifs.
Donc ça, voilà, ça concerne vraiment une catégorie de travailleurs vulnérables, encore une fois, hein, et une minorité d'employés, de travailleurs dans le canton du Jura.
Oui, très certainement, très certainement. Mais il n'en demeure pas moins que la problématique de l'établissement d'un salaire étatique qui veut lutter contre le phénomène des working poor, hein, c'est le but recherché par l'initiative, d'établir d'autorité un salaire mais qui ne s'applique pas à tous les salaires, le but de politique sociale est pour le moins pas atteint dans la mesure que certaines conventions collectives de travail prévoient des salaires pour les jeunes les moins qualifiés parfois à un salaire inférieur à celui qui est proposé ici par le Parlement.
Lionel Capelli, vu de Neuchâtel, quand on voit le projet qui ressort du Parlement jurassien, on a l'impression qu'à Neuchâtel, c'est plus strict, c'est plus contraignant.
On a effectivement l'impression que les jurassiens sont plus chanceux que nous.
Ça, c'est votre appréciation.
Effectivement. Ben, c'est sûr que, comme ce qui vient d'être évoqué, à Neuchâtel, on n'a pas ces exceptions qui sont liées aux conventions collectives. Ça, c'est un des problèmes les principaux que moi je vois dans le canton de Neuchâtel, c'est que pour nous, ce salaire minimum, il s'applique à toutes les branches, même des branches qui ont été réglées, qui ont été conventionnées par des accords entre les syndicats et les patrons.
Mais vous montez au front tous les deux, messieurs, alors qu'en fait, pour les membres que vous représentez ce soir, ça va rien changer ou presque. La plupart de vos membres pratiquent des salaires plus élevés.
Effectivement, si on s'en tient aux statistiques, déjà, dans le canton Neuchâtel, c'est environ 3,5% des personnes qui sont touchées par ce salaire minimum. Donc c'est sûr que ça fait peu de personnes, mais je rejoins M. Vincent Gigandet dans ce qu'il a dit tout à l'heure. On en faisait, nous aussi, à Neuchâtel, une question de principe, parce que, selon nous, c'est pas à l'État de venir dire à l'économie privée comment elle doit régler ses salaires minimums. Ce d'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, à Neuchâtel, ces domaines-là sont même réglés sur le plan suisse par des conventions collectives. Et à Neuchâtel, on vient nous dire non, mais ces conventions collectives, elles ne nous conviennent pas. C'est l'État maintenant qui fixe un salaire minimum et ça ne va pas.
Est-ce que ce n'est pas une mesure, une question que je vous pose, qui peut finalement contribuer à une forme d'attractivité du canton, de vos cantons? Quand on voit par exemple l'impact qu'a eu la nouvelle du salaire minimum sur les médias qui nous entouraient, d'ailleurs vous-même, Lionel Capelli, avait répondu à la télévision française, est-ce qu'on ne peut pas braquer les projecteurs de manière positive sur une région?
Peut-être, oui, c'est difficile à dire, mais effectivement, peut-être que ça braquera les projecteurs de manière positive sur le canton de Neuchâtel. Mais encore une fois, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même peu de personnes qui étaient concernées dans le canton par ce genre de choses. Et puis, de manière générale, les entreprises dans le canton de Neuchâtel pratiquaient des salaires qui étaient déjà supérieurs à ce salaire minimum.
En tout cas, ce salaire minimum ne concernera pas, vous l'avez dit, Vincent Gigandet, les secteurs conventionnés, les branches soumises aux conventions collectives, comme par exemple l'hôtellerie-restauration. Je vous propose d'entendre la réaction du président de Gastro Jura, en fait, qui, lui, ne s'inquiète pas trop, mais quand même un peu.
Alors, pas grand-chose fondamentalement, je dirais, parce que nous avons effectivement une convention collective nationale de travail qui fait force obligatoire, où nos salaires minimaux sont déjà, pour vraiment la très grande partie, supérieurs à cela. Donc vraiment, ça ne va pas changer vraiment grand-chose chez nous, je dirais, à voir après par la suite. La convention collective, si elle sera maintenue de cette ordre-là, où ça va donner des modifications de la convention, qui sera retraitée.
On pense notamment aux employés qui débutent sans formation.
Alors effectivement, à l'heure actuelle, notre convention nous permet de faire une baisse de salaire sur certains salaires pour les gens qui débutent dans nos entreprises, ou je ne sais pas si c'est beaucoup respecté effectivement ce truc-là ou pas, mais il y a cette possibilité qui est à l'heure actuelle dans notre convention.
Donc vous craignez, pour cette raison et peut-être d'autres, que ce salaire minimum jurassien remette en cause certains acquis de la convention collective et du coup entraîne ou vous oblige à la renégocier?
C'est surtout ça le risque, c'est la part sociale qu'on a à l'heure actuelle avec cette convention qui pourrait peut-être ne plus avoir trop lieu, raison d'être, qui va peut-être être discutée par la suite. Mais bon, c'est bien d'une convention nationale, donc c'est pas une convention jurassienne, c'est nationale, donc nous serons un petit peu de l'iceberg qui ressort de tout ça, quoi, je dirais.
Le peuple jurassien aura sans doute son mot à dire, puisque une majorité du Parlement a voté pour le référendum obligatoire. Est-ce que vous allez faire campagne à nouveau contre le salaire minimum?
Alors ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Je n'ai pas vu le temps de consulter mon comité, je dirais. Mais nous allons certainement en parler, mais je ne vois pas vraiment beaucoup d'intérêt. Je dirais on devra se battre certainement pour voir où ira les chiffres. Mais pour le moment, il n'y a pas grand lieu de grand débat, je dirais.
Et pour vous, Vincent Gigandet, est-ce que si référendum il y a, vous montrez à nouveau au front contre ce salaire minimum?
Alors, comme l'a dit M. Pope, en l'état, c'est un petit peu prématuré de se prononcer sur le sujet. Donc, ce n'est pas une décision qui m'appartient à moi seul, c'est à mon comité d'en décider. Nous verrons ce qui ressortira aussi de la deuxième lecture qui doit encore avoir lieu. Et puis on se prononcera sur ce fait-là une fois les tenants et aboutissants connus. Mais attendons de voir.
Et le fait qu'il n'y ait pas pour ce salaire minimum d'indexation automatique par le gouvernement jurassien, donc il ne va pas augmenter automatiquement ce salaire minimum jurassien. Le fait que les entreprises aient 2 ans pour se mettre en conformité, est-ce que pour vous, ce n'est pas des garde-fous suffisants pour laisser passer cette loi sans trop s'émouvoir?
Bon, je pense que ce n'est pas tellement la question de l'indexation. Cette indexation, alors il faut bien se rendre compte de la situation et de la pratique qui existe en la matière. Ce n'est pas forcément qu'il y ait des adaptations salariales parce que l'indice des prix à la consommation augmente. Les adaptations salariales sont discutées au sein de chaque entreprise, voire au sein de chaque branche, en fonction de leurs particularités propres. Vous pouvez très bien vous trouver dans une situation où malheureusement le secteur d'activité n'est pas très je dirais en bonne forme et en dépit d'un indice des prix à la consommation en hausse et qui ne permet pas forcément d'adapter les salaires. Donc qu'il y ait une adaptation automatique d'un salaire à l'indice des prix, on le connaît guère, si ce n'est dans la fonction publique éventuellement.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et on poursuit notre débat sur le salaire minimum dont on a débattu aujourd'hui au Parlement jurassien, le Parlement qui l'a adopté, vous venez de l'entendre une nouvelle fois sans opposition, en tout cas en première lecture. Je me retourne vers vous Lionel Capelli, puisque à Neuchâtel, eh bien, ce salaire minimum est effectif, même si des exceptions sont encore en cours de délibération. Quelles leçons tirées par rapport au retour que vous avez eu de vos membres, du tissu économique neuchâtelois que vous connaissez ?
Alors, ce que je peux retenir des contacts que j'ai avec mes membres qui se sont inquiétés une fois que ce salaire minimum est entré en vigueur, hein, qui est de 19,70 francs à Neuchâtel, pas de 20 francs, parce que nous, on avait justement cette adaptation à l'indice des prix suisse à la consommation, c'est que tous les membres qui sont approchés de moi en me disant « Mais est-ce que je fais juste ?» Eh bien, lorsqu'on a fait nos calculs, ils faisaient déjà juste. Donc, ils étaient déjà au-dessus de ce salaire minimum. C'est aussi que, pour cette raison-là que je vous disais tout à l'heure, que la plupart des entreprises déjà neuchâteloises étaient de bons élèves et étaient déjà au-dessus de ces salaires minimums, à part dans certains secteurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la restauration, mais il y a également le secteur de la coiffure.
Et donc, pour cette raison, le problème, on l'a dit, est plus de l'ordre quasi philosophique. Pour vous, ce n'est pas à l'État de s'en mêler, mais néanmoins, si l'État ne s'en mêle pas, apparemment, ça ne marche pas.
Je suis pas sûr. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. C'est parce que c'est pas que ça ne marchait pas. C'est que le secteur économique fonctionnait très bien comme ça. Dans les domaines où les salaires minimaux étaient inférieurs à ce fameux salaire minimum neuchâtelois, c'était des domaines comme on l'a dit tout à l'heure, la gastronomie ou bien la coiffure. Mais c'est des domaines qui avaient été réglés par des conventions collectives et par des accords entre les syndicats et les patrons. Donc les syndicats étaient également d'accord de fixer ces salaires minimaux qui étaient certes inférieurs au salaire minimum qui est fixé maintenant par le canton Neuchâtel.
Mais au final, si ces salaires ne sont pas revus à la hausse, ça peut créer une catégorie ou ça crée une catégorie de travailleurs pauvres qui ont besoin de prestations complémentaires de la part de l'État. Et au final, ça revient toujours dans la poche du contribuable.
C'est sûr que le fait d'augmenter le salaire minimum, ça va peut-être permettre à ces gens de vivre un peu mieux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'était aussi une question de principe. C'était pas à l'État de venir dire aux patrons comment ils doivent fixer leur salaire minimum.
Et vous craignez une évolution dans ce sens qui vous inquiète, Lionel Capelli, alors que là, on parle encore une fois d'un salaire très bas.
Qu'est-ce que vous entendez par
Est-ce que ça vous inquiète au niveau du principe que l'État ait légiféré sur la question, sur un salaire qui finalement ne vous impacte que très peu ?
Alors, c'est inquiétant, c'est le jour où l'État, effectivement, veut mettre son nez dans toutes les parties de l'économie privée. Effectivement, ça serait inquiétant.
C'est aussi votre inquiétude qu'on ait ouvert la boîte de Pandore.
La boîte de Pandore, ça peut être beaucoup dire. Mais il est clair que dès le moment où on fixe une norme, le corollaire est que l'on contrôle si cette norme est respectée. Ça veut dire qu'il y aura davantage de contrôles à devoir être effectués. Et ces contrôles se feront par les services de l'État. Voilà, donc c'est des chicaneries pour l'immense majorité des entreprises que de répondre à des contrôles de salaire minimum.
Merci en tous les cas, messieurs, d'être venus commenter cette actualité en lien avec le salaire minimum donc qui devient réalité dans le canton du Jura. On vous souhaite une bonne suite de soirée.
Merci beaucoup.
À vous aussi. Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée aussi.
Place publique.
Et on va maintenant parler toujours d'économie, puisque depuis janvier 2015, vous le savez, l'abandon du ton plancher par la Banque Nationale Suisse a mis l'économie dans une position délicate liée au contexte monétaire difficile avec le franc fort, qui a mis sous pression l'industrie, notamment exportatrice. On en sait quelque chose hein, dans l'arc jurassien. Hier mardi, le secrétariat d'État à l'économie a présenté une série d'études consacrées aux impacts de ce fameux franc fort sur les exportations, les investissements, la recherche et le développement ou encore sur l'emploi. Et c'est précisément dans ce domaine que Daniel Kaufmann est allé chercher, est allé interroger le terrain, ce professeur assistant d'économie à l'Université de Neuchâtel, qui est aussi un chercheur au Centre de recherche conjoncturelle de l'EPFCED. On écoute son entretien, son analyse. Daniel Kaufmann, bonjour.
Bonjour, monsieur Devecq.
Le Francfort est depuis 2015 un motif d'inquiétude majeur pour les entreprises, notamment dans l'arc jurassien tourné vers l'exportation. Vous vous êtes concentré sur l'impact du Francfort sur l'emploi, avec à la clé une baisse importante.
Exactement. Dans notre étude, on a analysé le développement de l'emploi après la décision de la Banque nationale suisse de renoncer le taux plancher. Et ce qu'on observe après cette appréciation du franc suisse, l'emploi dans le secteur manufacturier a diminué à environ 4% par rapport à une groupe de contrôle des entreprises similaires en Autriche.
Comment on peut expliquer que l'appréciation du franc, que le franc fort, fasse diminuer le nombre d'emplois?
Alors, d'une part, ce qu'on a aussi analysé dans notre étude, c'est que les prix de ces entreprises qui exportent des biens et services restent plutôt stables après cette appréciation. Ça veut dire que les prix en franc suisse augmente fortement à l'étranger parce que le franc suisse s'était apprécié. Et c'est pour ça que les consommateurs à l'étranger vont décider de plutôt consommer des biens et services à l'étranger que des biens et services de la Suisse.
Une baisse des volumes d'affaires qui oblige les entreprises à réduire la voilure.
C'est une part de l'histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire parce qu'il y a aussi des entreprises qui chargent des prix en euros. Et pour ces entreprises, en fait, l'équivalent prix en francs suisses a diminué fortement après l'appréciation. Et ce qu'on observe pour ces entreprises, on observe une forte diminution des marges.
Et donc, qui dit diminution des marges, dit difficulté à maintenir le nombre d'emplois et aussi difficulté à investir.
Ce qu'on observe, que ces entreprises ont une tendance de diminuer l'emploi parce qu'ils doivent réduire les coûts pour, encore une fois, augmenter leurs marges. Et aussi, ça pourrait dire que ces entreprises ont difficulté d'avoir l'argent pour faire des investissements.
Est-ce que ces emplois qui ont disparu vont réapparaître ou est-ce qu'ils sont perdus pour toujours?
À notre avis, ces emplois ne sont pas perdus pour toujours parce qu'il s'agit vraiment d'un effet temporaire lié à l'appréciation nominale du franc suisse. Mais une fois que les prix et les salaires en franc suisse ont adapté à la nouvelle taux de change nominale par rapport à l'euro, la situation va normaliser et nous pensons qu'il y avait encore une fois une augmentation de l'emploi dans le secteur manufacturier en Suisse.
Si je vous comprends bien, le Francfort n'a pas accéléré la désindustrialisation dont on parle depuis plusieurs années.
La désindustrialisation, c'est plutôt un phénomène à long terme et c'est lié à l'automatisation, à la globalisation, à la Chine qui a entré sur le marché mondial. Et ce n'est pas nécessairement lié à l'appréciation du franc suisse qu'on a observé en 2015.
Donc à long terme, ce seront plutôt des emplois dans les services qui seront créés.
La désindustrialisation, ça ne dit pas qu'on observe une diminution des nombres des employés dans le secteur manufacturier. C'est plutôt que l'emploi dans le secteur des services augmente plus fortement que l'emploi dans le secteur manufacturier.
Quand on regarde les signaux conjoncturels, quand on voit que le franc suisse se déprécie face à l'euro, est-ce qu'on peut dire que l'économie va repartir de plus belle?
Oui, je pense qu'on peut être optimiste. Dans notre étude, on analyse la période jusqu'à la fin de 2016. Mais ce qu'on observe maintenant en 2017, c'est que le franc suisse s'est déprécié par rapport à l'euro. Alors c'est une situation complètement différente maintenant, c'est-à-dire que le franc suisse n'est pas survalué d'une même matière qu'on a observé en 2015. Alors je pense que ça veut dire que l'emploi dans le secteur manufacturier va encore une fois augmenter et la situation conjoncturelle va s'améliorer.
Place publique.
Les cas déclarés d'infections sexuellement transmissibles ont progressé l'année dernière en Suisse. On l'apprenait lundi, les cas de gonorrhée ont bondi de 20%, 15% pour la syphilis ou encore 8% pour la chlamydia. Seul le nombre d'infections au HIV reste stable, en hausse malgré tout de 1%. Cette tendance concerne surtout les régions urbaines, notamment dans l'arc lémanique et dans le bassin zurichois. Mais l'arc jurassien est aussi concerné. Pour quelles raisons? Comment la prévention doit-elle évoluer? On en parle avec nos deux invités, deux femmes de terrain. Avec vous, Catherine Stangl, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la chef du centre de santé sexuelle et planning familial de la ville de Neuchâtel. Avec nous également, Justine Erard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pharmacienne, responsable de la pharmacie de la gare à Moutier. Je commence avec vous, Catherine Stangl. Est-ce que ces chiffres correspondent d'une certaine manière à ce que vous constatez sur le terrain ?
Alors sur le terrain, on constate chez nous, dans un centre d'information et de consultation, on constate que les gens ont des questions, ont des inquiétudes, parfois ont des partenaires qui leur annoncent un diagnostic. Donc l'intérêt et le besoin d'information est très présent sur le terrain.
De votre côté, Justine Erard, est-ce que vous constatez une recrudescence de prise en charge de ces personnes qui sont infectées ?
Alors, c'est vrai que la pharmacie est souvent un lieu de premier recours, donc on comptoie beaucoup de populations, et puis notamment lors des entretiens de remise de contraception d'urgence, là on a l'occasion de discuter, d'ouvrir le dialogue, et on remarque en tout cas chez la population de moins de 25 ans, souvent des méconnaissances par rapport à la contraception de manière générale, et puis aussi par rapport aux infections sexuellement transmissibles.
Ce qui peut paraître, Catherine Stangl, assez étonnant, hein, cette méconnaissance pour un public pourtant informé, on imagine, à l'école obligatoire, avec tous les progrès que la prévention a fait.
Alors, informer, on le fait, informer, donner des cours d'éducation sexuelle. Mais ces infections, c'est des maladies qui sont très différentes les unes des autres, qui ne concernent pas toujours les mêmes public, même groupe de population. Et puis, pour comprendre de quoi il s'agit, à quel moment on est à risque, qu'est-ce qui peut nous protéger, ça demande quand même d'assimiler un certain nombre de connaissances. C'est pour ça que c'est important que non seulement on donne des informations par l'éducation sexuelle, mais aussi, par exemple, dans les pharmacies et dans des centres de conseil qui sont accessibles, en général avec des consultations gratuites pour toutes sortes de publics.
Et dans les pharmacies, c'est à l'ordre du jour ou justement ça se fait seulement en cas d'urgence quand il s'agit d'administrer cette pilule contraceptive dite du lendemain?
Exactement. Et puis j'aimerais aussi revenir sur le fait que la gonorrhée donc, est souvent aussi une infection asymptomatique chez la femme. Donc elle ne va pas avoir de symptômes. Donc c'est aussi délicat à détecter. Et c'est là que je pense que c'est important qu'on ouvre le dialogue chez la population, on va dire active sexuellement, qui a plusieurs partenaires, donc pas un partenaire régulier. Là, il faut vraiment insister sur l'utilisation du préservatif pour la prévention.
Est-ce que le lieu, la pharmacie, peut servir de plateforme pour en parler peut-être plus souvent, de manière plus libre que dans ces situations d'urgence qu'on vient de décrire? Est-ce que vous êtes prête, par exemple, à mettre en place des initiatives dans ce sens?
Alors, on est toujours en faveur de, voilà, de, on va dire, si on peut, au niveau du système de santé, avoir une action en collaboration avec typiquement des plannings familiaux, les médecins, alors oui, on est toujours, on se sent toujours concerné et puis motivé, ça c'est sûr. Après, nous, on a la chance d'avoir aussi un lieu de conseil, donc ce genre de sujet ne s'aborde pas au comptoir et c'est important de garder en tout cas le secret professionnel et puis la confidentialité. On a besoin quand même, voilà, que les personnes viennent vers nous pour pouvoir instaurer le dialogue. Et le fait, lors de la remise de la contraception d'urgence, là, c'est l'ouverture en fait au dialogue à ce moment-là qui permet d'aborder ces sujets.
D'autant plus important, Catherine Stangl, d'instaurer un dialogue qu'on a beaucoup mis l'accent hein, sur, pendant des décennies sur le virus HIV et le port du préservatif. Mais malgré tout, il y a ces bactéries, cette gonorrhée, cette syphilis, la chlamydia qui prennent leur essor et on se rend compte qu'on a peut-être mis de côté d'autres aspects de la sexualité qui ont leur danger aussi.
Mais c'est-à-dire, pour moi, l'importance de ce dialogue dans un cadre confidentiel où on peut parler de son intimité, il est indispensable pour qu'on puisse comprendre comment on s'infecte, comment on prévient les infections, et puis aussi comment se comporter en cas d'infection. Par exemple, quand on a plusieurs partenaires et qu'il y a une infection qui est détectée, on essaye d'atteindre tous les partenaires, parce que le but, c'est d'éviter que la chaîne se propage. Donc, pour pouvoir atteindre les différents partenaires, c'est pas toujours simple, puisque que nos relations ne sont pas toutes au grand jour, et puis parfois il y a des difficultés à communiquer sur ces sujets. Donc ça, c'est des thèmes qui demandent l'intimité de la consultation pour qu'on puisse vraiment arriver à traiter et à comprendre comment se comporter, enfin, que chacun puisse prendre des bonnes décisions et respecte les partenaires aussi et prévienne à la transmission.
Parce qu'il y a une forme aussi de déni lié à ces infections. On n'a pas envie de se l'avouer, on n'a pas envie de forcément en parler, de le révéler à l'entourage.
Alors, il y a souvent quand même de la gêne et parfois des situations difficiles. Imaginez dans des situations d'infidélité, par exemple, quand il s'agit d'annoncer à son partenaire ou à sa partenaire régulier ou régulière qu'on a été infecté par quelqu'un d'autre, ça peut mettre en question des relations de longue durée, par exemple. Donc, on peut comprendre que ce soit parfois tentant de mettre un peu la tête dans le sable et puis d'attendre que ça passe. Quoi.
Justine Erard, peut-être avoir votre point de vue sur peut-être un changement de mentalité auquel on a assisté, le fait que le virus du sida se traite, les autres infections peuvent se soigner malgré des risques réels de complications. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une forme de légèreté ou d'acceptation du risque plus forte qu'auparavant ?
Alors, acceptation du risque, je ne sais pas. Est-ce que le risque est bien évalué ? C'est plutôt la question. J'ai plutôt l'impression que la population, on va dire, des jeunes, se sentent moins concernées et plus insouciantes par rapport à ces risques. Et quand on est jeune, on se dit un petit peu invincible, et puis on n'a pas conscience. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on doit donner vraiment la responsabilité par rapport à ces maladies, et faire prendre conscience. Je pense que c'est important.
J'aimerais intervenir à ce sujet. De notre côté, une partie de ces infections ne se préviennent pas complètement. Le préservatif est efficace pour le VIH, dans une certaine mesure pour les autres infections. Donc, on ne peut pas non plus attendre d'un comportement de prévention que les personnes évitent toutes les infections. Donc, pour nous, ce qui est important aussi, c'est d'ouvrir la discussion sur l'infection quand elle se présente, et sans stigmatiser la personne. Parce que finalement, on peut dire que pour une personne qui a une vie sexuelle active, un jour ou l'autre, il est possible qu'elle rencontre une de ces infections. Par exemple, le papillomavirus est présent chez à peu près 80% de la population une fois ou l'autre. Donc, pour moi, le but de la prévention, c'est pas seulement de donner l'information « protégez-vous et vous allez éviter tous les problèmes ». Non, il s'agit aussi de dire « quand il y a un problème, on est là aussi pour faire un dépistage ». Pour évaluer les risques, justement, quels sont ces risques, et c'est pas tout simple à faire, et ensuite proposer un traitement.
Jamais trop tard pour agir, même quand on est infecté, il faut briser la chaîne de contagion, vous le disiez tout à l'heure. Un mot sur la politique de prévention lancée par la Confédération à la suite de ces chiffres, c'est ce Safer Check Sexe qui a été lancé, c'est un test en ligne qu'on peut faire sur son téléphone portable, sur Internet, qui permet de répondre à des questions somme toute individualisées, avec des solutions individualisées. Est-ce que ça, Catherine Stengel, ça va dans le bon sens pour vous ?
Alors, ça va dans le sens de ce qu'on fait dans nos centres de consultation avec ce qu'on appelle l'évaluation des risques. C'est-à-dire la possibilité de vérifier en fonction de ses propres activités sexuelles si soi-même on s'est confronté à des risques. On sait que les infections ne concernent pas toute la population de la même façon. Par exemple,
il y a des groupes à risque.
Il y a des groupes qui sont plus touchés. Dans ces chiffres sur la syphilis, on voit actuellement que 89% des infections de 2016 se sont produites chez des hommes. Donc, ça, c'est par exemple une indication qui nous montre qu'on n'est pas tous égaux, entre guillemets, devant les infections.
Et Justine Erard, les hommes ne viennent peut-être pas facilement parler de leur sexualité et de leurs inquiétudes en pharmacie. C'est plutôt les femmes qui viennent chercher cette fameuse pilule. Donc il y a des groupes auxquels vous avez peut-être moins accès pour aborder ces questions.
Tout à fait, oui. Non, alors la population masculine vient rarement au comptoir pour poser des questions par rapport à ces infections sexuellement transmissibles. On n'a pas vraiment l'occasion d'en parler à ce moment-là.
Néanmoins, ce test en ligne dont on vient de parler, ça peut être une porte d'entrée aussi pour venir vous voir.
C'est une porte d'entrée aussi pour voir quels sont les critères sur lesquels on se base pour évaluer les risques et puis obtenir aussi des informations. Donc, ce check est en ligne. Hein. Je pense que vous pourrez mettre peut-être l'information
sur votre page. Elle sera en ligne, absolument. Elle l'a déjà été d'ailleurs lundi.
Merci.
Mais on va la remettre, on va en mettre une couche. Merci en tout cas, mesdames, d'être venues dans Place Publique. Catherine Stengel, chef du Centre de santé sexuelle Planning Familial à Neuchâtel. Et Justine Erard, pharmacienne à la pharmacie de la gare à Moutier. Bonne suite de soirée.
Merci pour moi aussi.
Merci, pareillement.
Merci, c'est tout pour Place Publique. Merci à nos invités. Merci à Yannick Frossard et à Aileen Pamukchak pour la réalisation. Vous retrouvez cette émission en tout temps sur la page web de l'émission, mais aussi en podcast sur nos applications RJB, RTN et RFJ. Et dans un instant, c'est le flash de 19h.
Place Publique.